Cette semaine, dans le balado, on découvre le stand-up, on démasque une conspiration et on se fait attaquer par un chimpanzé. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Morleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, bonne année.
Bonne année. Premier épisode de 2026.
Oui, c'est ça.
Et, très chargé.
Ben oui, puis derrière les coulisses, parce qu'on a déjà enregistré notre top de l'année hier, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne et tout. Fait que finalement, ça c'est le premier épisode de l'année que vous entendez.
Oui, avec un invité spécial aussi.
Oui, écoute, on va le hyper avec Éric de Montigny, le visage et voix connue de Pop Culture Québec, qui est sur les réseaux sociaux depuis quelques années, qui a vraiment explosé cette année, à faire quelques collabs, à faire des reviews de films, de spectacles de musique, de séries télé, tout ça en format de vignette, là, on a des petits 30-45 secondes. Fait que cool, Éric est venu partager, puis on a des top 10 qui se ressemblent et se différencient. Mm-hmm. Sur certains points de vue, certains classements aussi. Ouais. Fait que je vais mettre ça en ligne en début de semaine prochaine, puis ça sera notre... tu sais, voyez-le aussi comme une liste...
Oui.
Que rattrapage, quoi voir. Il y a beaucoup de films là-dedans qu'on va rejaser dans les Oscars et même les Golden Globes qui sont en fin de semaine.
Ben, souligner que ça va être dimanche soir, donc la fameuse soirée animée encore par Nikki Glaser, là, l'humoriste, qui avait fait un bon boulot l'année passée, honnêtement.
C'est sur quelle chaîne, cette affaire-là? On le sait-tu?
Au Canada, c'est CTV. CTV, okay. Ouais, fait que la chaîne... Ça doit être pas ABC, parce que ABC, c'est les Oscars.
Ouais.
Fait qu'une des trois, une des deux autres. C'est soit ABC ou CBS. Dire,
sur CTV, c'est bien correct, c'est là, dans le sens que c'est pas comme je veux les pubs officielles. Je suis pas si hot que ça.
Fait que moi, je pense que le grand duel, ça va être entre Hamnet et Marty Supreme. Ça va mettre la table justement pour les Oscars très bientôt.
Ça va être qui le grand perdant, tu penses?
C'est-tu? Moi, je pense que ça va être One Battle After Another.
Ah ouais?
Ouais. On verra bien.
Ouais.
Fait qu'allons-y, petit tour d'actu avant de parler quand même de plusieurs films qui ont pris l'affiche.
Oui, parce que là, on va couvrir des films qui sortent le 9 janvier, mais des films qui ont sorti en exclusivité dans certains marchés pendant les fêtes. Puis évidemment, ben, tu sais, comme avant les fêtes, on avait parlé d'Anaconda ou de Jean Valjean qu'on n'avait pas eu le temps de voir, mais là, il y a comme trop de stock pour qu'on y revienne ou quoi que ce soit.
Exact.
Ben, t'es allé voir, toi, Jean Valjean?
Moi, juste souligner peut-être Jean Valjean, ça vaut la peine, honnêtement. Un bon petit drame pour les amateurs, je pense, des Misérables. Il faut plus apprécier l'œuvre pour vraiment pleinement rentrer. Mais, une belle... comment dire, une belle interprétation des deux premiers chapitres, en fait, des Misérables.
Okay.
Donc, ça se situe vraiment quand Jean Valjean va faire la rencontre du fameux prêtre qui va changer sa vie. Très belle musique, très bien joué, Grégory Gadebois, très efficace en Jean Valjean.
Super. Moi, je voulais aller voir Anaconda, j'ai manqué de temps.
Ouais, moi
aussi. Je n'ai pas encouragé le cinéma.
J'en ai deux.
Mais on est comme des oiseaux spéciaux, nous autres.
Oui. Puis il y a Song Song Blue que j'ai pas vu non plus, que j'étais curieux de voir.
Je crois que t'es pas le seul qui a pas vu Song Song Blue. De
ben, peut-être au Québec, et aux États-Unis, c'est quand même correct, un bon petit succès d'estime.
Ouais, mais tu sais rien contre le film, là, c'est juste Neil Diamond, à quel point, à part Sweet Caroline.
Exact.
J'aime mieux le baseball que Sweet Caroline.
Alors, mais parlons quand même d'un événement qui a marqué les fêtes dans le monde du cinéma. C'est le décès de Brigitte Bardot, quand même. Faut le souligner.
Hey, tu me l'apprends.
Ah ouais? Ouais,
okay. Je savais pas ça.
Ben oui, 28 décembre. Donc,
moi qui pensais que j'avais pas vraiment déconnecté, finalement. Un peu.
Finalement, ouais. Décédé à 91 ans des suites d'un cancer. Donc, quand même, Brigitte Bardot est une icône du cinéma français. Que, honnêtement, je dois confesser, j'ai vu aucun de ses films.
Mais, sauf erreur, c'est elle dans Barbarella, Princesse de l'Espace?
Non, c'était Jane Fonda.
Ah, bon. Qui, ben, moi non plus, je pense que j'ai vu.
Non, son film qu'il a découvert au grand public, c'est Et Dieu créa la femme en 1956, qui était un des premiers films sexy du cinéma français, et Le Mépris aussi en 1963. Donc, je pense qu'il y en a deux à voir. Si, comme moi, vous n'avez pas vu ces films, ce serait ces deux-là. Ils comptent évidemment de sexe symbole, de la mode
de
aussi. Ben oui, évidemment, qui a changé.
Les fameux bébés
phoques. Ouais, en fait, qui a tout laissé, le cinéma, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière, pour justement se consacrer à la défense des animaux. Fait que voilà, Brigitte Bardot, quand même, un des monuments du cinéma français.
Elle est décédée à quel âge?
91 ans.
Ah, okay.
Quand même. Fait que... Et à souligner du côté québécois, quand même, l'accomplissement de Les Furies au box-office qui ont atteint le 1 million. Fait que c'est
il y a vraiment... Je pense que c'est un peu ce que le distributeur attendait et imaginait. C'est que le film a connu une hausse vraiment pendant les fêtes. Fait que c'était peut-être un peu plus moribond. Puis là, dans les fêtes, pouf, une belle sortie familiale.
Ben, c'est ça aussi. C'est un peu, je pense, le film québécois que les gens ont choisi, qui était le plus grand public, là, parce que Juste Xavier, quand même, c'était un...
Ben, honnêtement, entre les lignes, Juste Xavier est sorti le 12 décembre, puis si tu voulais aller voir le 26 décembre, il n'y avait pas beaucoup d'écrans au Québec qui l'avaient, là.
C'était plus
alors
niché,
que les
quand
Furies
même,
étaient plus ouais. largement à l'écran. Là.
Donc, fait que bravo quand même, parce que c'est un des rares des films de 2025 québécois à avoir atteint 1 million.
Ouais, l'année est plus modeste.
Ça a été plus rough. Parlant de record de box-office, Zootopia 2, lui aussi, ça a été un succès surprise dans le temps des fêtes, parce qu'il a repris des galons au box-office.
Ouais, là, il a passé le milliard.
Écoute, il est rendu à 1,6 milliard.
Oh, OK.
Donc,
en fait, d'après moi, il va faire plus qu'Avatar. Mais Avatar est encore jeune dans sa sortie,
ouais.
mais...
Probablement oui, mais ce qui est devenu finalement le plus haut succès, le plus grand succès de Disney Animation, donc a battu Frozen 2, qui était de 1,45 milliard, et il était à 90 millions de Pixar et Inside Out 2, donc deviendrait le film d'animation le plus lucratif de tout le temps.
J'ai l'impression que c'est dans une question de semaine.
Ben, c'est certain.
Parce qu'il joue partout, là, aux États-Unis, faire 90 millions, là, ça va être long, là, peut-être qu'il le fera même plus. Mais mondialement,
Il roule encore très fort et surtout en Chine. On avait parlé qu'il était là-bas, c'est comme un phénomène, Zootopia. Ouais, il y a même une section thématique dans le Disney Shanghai sur Zootopia. Il a fait 600 millions en Chine. C'est le film américain qui avait le plus d'argent. Ouais. Fait qu'il a battu Avengers Endgame qui détenait le record.
Puis tu vois, c'est peut-être que Week One, c'est payant finalement.
Ouais, peut-être.
Non, je sais pas s'il a fait de la promo là-bas ou quoi. Mais. Aussi, au niveau du calendrier, il va avoir Goat, là, le film de Sony Animation de chèvre qui fait un genre de basketball, là, produit par...
Stephen Curry.
Oui, c'est ça, exact. Qui sort le 13 février de mémoire, mais d'ici là, c'est plus du produit mineur. Là, fait que je pense que Zootopia va avoir
tout le mois
encore
de janvier
champ
encore.
Libre, c'est ça, puis c'est pas Bob l'éponge qui l'a affaibli tant que ça.
Je pense vraiment
qu'il va encore passer à la caisse.
Une réussite spectaculaire pour Disney quand même. Du côté, parlant toujours de succès du temps des fêtes des Housemaid, je pense remplit finalement les attentes, est un beau succès. Et c'est sans surprise qu'on a confirmé la mise en chantier d'une suite,
parce qu'on
sait que c'est une trilogie en fait.
J'ignorais.
Il y a trois romans, plus un petit recueil de nouvelles, donc The Housemaid's Secret, qui est le deuxième tome. Je pense qu'on va se dépêcher pour le sortir l'an prochain, là. Je ne serais pas étonné qu'on fast-track tout ça. C'est toute la même équipe qui revient, évidemment Sam de Seyfried, parce que son personnage n'est pas dans le deuxième tome, mais on poursuit les aventures de Sidney Sweeney, dont j'ai oublié le nom de son personnage.
Moi aussi.
Donc, et en terminant, un casting qui moi, m'excite pour The Batman 2. On avait déjà parlé de Scarlett Johansson.
Oui, j'oublie l'existence de ce film-là.
Potentiellement Poison Ivy, je pense qu'elle a le casting, on verra bien. Mais Sebastian Stan aussi vient d'être confirmé.
Ah ouais, OK. Il y a pas mal plus de méchants masculins.
Moi, je pense qu'il pourrait être Two-Face. Moi, je le vois en deux faces. Quand même, belle gueule, beau bonhomme.
C'est vrai qu'il y a aussi le petit côté que... son nom m'échappe, là, mais lui qui avait fait Harvey
Aaron Dent. Eckhart.
Ah ouais, c'est ça. C'est cette belle face-là.
J'ai hâte de voir. Mais peut-être qu'ils vont nous surprendre finalement, arriver avec des rôles complètement différents. Mais The Batman 2 en octobre 2027, fait qu'il faut être patient parce que le tournage va débuter cette année. Côté bande-annonce, on avait évoqué la fameuse rumeur des quatre bandes-annonces des Avengers avant Avatar.
Ouais.
Finalement, on s'était dit «
On
n'a
pas
juste
eu l'info et tout. » C'était vrai?
C'était vrai, mais pas en même temps. Donc, on les sort au compte-gouttes une par semaine.
Ouais, c'est ça.
Donc, on en a eu deux autres. Alors, on a eu une avec Thor. As-tu vu finalement, toi?
Je pense que non.
OK. Fait qu'on voit Thor finalement dans la forêt, dans un chalet,
un
quelque
bébé,
chose.
J'ai vu des screen grabs de ses enfants.
Ouais, en fait, c'est sa fille qui était dans Thor Love and Thunder.
Oui,
donc, qui invoque Odin pour lui donner le pouvoir de combattre une dernière fois, de prendre les armes. Et la plus récente, je pense qui a excité beaucoup de gens quand même, c'est celle avec les X-Men. Donc, on confirme le retour des X-Men, mais l'incarnation vraiment des films de Fox. Donc, on voit Patrick Stewart et Ian McKellen Xavier et Magneto.
Ouais.
Et un petit shot de Cyclops aussi, de James Marsden.
Ah ouais,
fait que voilà. Et on reste à parier quelle sera la dernière. Est-ce qu'on va oser montrer Robert Downey?
Non, je sais que ce ne sera pas ça. Mais non, mais tu vois, ils vont sur les larges puis les connus. Puis si vous n'aimez pas les nouveaux bonhommes, les autres vont être là.
Donc, est-ce qu'on va voir la révélation de Downey Jr. en Doctor Doom dans le prochain? J'ai hâte de voir.
Peut-être, oui. Lui qui commence là, donc ils vont mettre sur Internet lundi ou mardi, je ne sais pas trop. Fait que si vous n'avez pas vu Avatar ou si vous retournez le voir pour une énième fois, ce sera ça.
Ouais. Sinon, film d'hockey. Film culte. Parce que je pense pas que ça a été un grand succès à l'époque, mais je pense que c'est comme devenu un film culte parce qu'il n'y en a pas une tonne non plus de films d'hockey. Youngblood, nouvelle mouture qui sortira le 6 mars.
Oui, puis en français, je pense qu'il s'appelle Youngblood, le hockey dans le sang.
Ça se peut.
C'est le titre. Oui. Super cool. Production canadienne.
Ouais, un coprod que j'ai vu. Okay. Mais...
Est-ce que le premier, c'était ça aussi? C'était un film purement
américain?
Non, c'est
vraiment un film purement américain. Okay. Ouais.
Puis là, ben, on suit un jeune qui a l'air d'être plus dans le... c'est pas AHL, là. Ça se peut-tu que c'est
non, c'est dans Junior.
Junior, ça. Puis que là, il essaye de jouer, mais que aussi on dit, ben, tu sais, le but de tout le monde, c'est pas d'être le meilleur, puis d'être le joueur sur la première ligne. Il faut que tu trouves ta place, il faut que tu joues pour l'équipe, il faut que tu laisses faire toi.
Dean Youngblood est un personnage qui est très caractériel, qui est dur à coacher. Puis là, je ne me rappelle plus des circonstances, mais il est comme renvoyé. Ou en tout cas, il y a comme un retour, suspendu à quelque chose. Fait que, puis comme là, une dernière chance.
C'est
finalement.
Ça. Puis là, il est joué par un afro-canadien.
Ouais.
Ça fait que ça ajoute aussi parce que là, il y a un côté racial à tout ça, là, dans le fond, là, qui va subir du racisme et du mépris. Et il y a Henri Picard qui joue son... Je sais pas s'il est le capitaine de l'équipe, mais en tout cas...
Oui, c'est ça. C'est Dean Sutton. Il reprend le rôle de Patrick Swayze.
OK.
Qui va être le mentor de...
Les deux s'appellent Dean?
Excuse-moi, non, je me suis trompé. Okay. Fait que c'est Sutton, mais j'ai oublié son prénom.
Okay.
C'est ça, qui va prendre un peu Youngblood sous son aile. Puis lui, dans le fond, il va être victime là, d'un coup sauvage pendant les finales de la Coupe Memorial. Et fait que là, Youngblood va être en quête de vengeance, mais prouver en même temps qu'il est capable de prendre sa place et de porter l'équipe.
Ça fait très longtemps que j'ai vu l'original Youngblood. Ouais. Mais dans mon souvenir, c'est pas un très bon film. Puis je pense que cela a l'air beaucoup plus intéressant.
Je pense que
c'est vraiment meilleur film.
Ouais, je pense que oui. Oui, parce que, ben, tu sais, déjà dans le casting de Patrick Swayze, Rob Lowe, qui font zéro âge hockey junior, là.
Oui, c'est ça. Il y avait déjà comme 29 ans.
Oui, c'est ça.
Ben, Henri Picard est un peu plus vieux, mais il a encore sa babyface.
Ouais, il passe un peu plus. Puis, écoute, non, puis l'autre, c'était la Coupe Memorial, mais ça n'avait rien à voir. C'était une finale 4-7. Fait que, tu sais, ça suivait même pas vraiment l'encadrement du hockey.
Ouais, puis il y avait, je pense, des scènes de hockey complètement débiles.
Ouais,
aussi, là,
un peu
à la Mighty Ducks. Là,
Fait que j'ai hâte de voir, par contre, ce que ça va faire auprès de nouvelles générations.
Oui, on l'espère. Parce que, tu sais, c'est pas purement québécois, justement. Il va avoir une version française traduite, mais, tu sais, junior majeur.
Est-ce qu'ils vont traduire en québécois pur, ça? J'ai hâte de voir.
Hey, j'ai pas écouté la bande-annonce en français.
Elle est sortie en français? Moi, j'ai vu en anglais.
Oui, elle est sortie en français aussi. Genre, aujourd'hui, il y a un communiqué de presse. Fait que j'ai pas écouté. Je suis curieux de voir.
Ouais, j'irai voir, moi aussi.
Mais tu sais...
Ce qui est quand même drôle, parce qu'Henri Picard n'est pas du tout dans la bande-annonce. Fait que...
Ah oui, un peu.
Ah ouais, en anglais, non.
Fait que, moi, je l'ai vu en anglais.
Ah ouais, mais moi, j'ai pas vu de là.
Mais il est genre au gym, puis il dit « Hi mate, comment ça va? » Puis tu le vois recevoir un coup sur la glace, puis des affaires, mais il est pas... Je pense que c'est un rôle secondaire quand même.
Ouais, mais quand même sur l'affiche du film, là, fait que c'est quand même drôle, mais je pense que c'est juste parce que pour au Canada anglais, aux États-Unis, ils s'en foutent de lui.
Ah ouais, non, effectivement. Ben, je pense un petit peu aussi quand Goon était sorti, par exemple. Ouais, Marc-André Grondin, il marchait au Québec, mais les autres ne savaient pas tant ça, c'était qui. Là.
Exact.
Le marché que le film visait, c'était pas du monde qui avait vu Crazy sous-titré anglais. Là.
Non, vraiment pas.
C'est ça, on aime le sport, fait qu'on est hypé.
Puis d'ailleurs, entre les lignes, je pense qu'on peut déjà teaser qu'on va préparer quelque chose sur les films d'hockey.
Oui,
On n'en dit pas plus.
Et spécial hockey.
Yes.
Couverture des Olympiques, c'est ça que tu veux dire?
Oui, tout
parfait.
À fait.
OK, on n'en dit pas.
Allons-y avec les sorties de la semaine. Puis moi, je vais aller avec, je pense, celle que j'attendais le plus.
Oui, puis en fait, il y a beaucoup de films cette semaine. Je pense qu'il y en a juste deux qu'on a vus tous les deux.
Ouais.
Tous les autres, c'est un l'a vu, l'autre l'a vu.
Effectivement, c'est séparé ça.
Okay, on commence avec?
Ben, Is This Thing On de Bradley Cooper.
Oui, puis j'avoue qu'il y avait eu une sortie un peu weird, mais il était sorti comme à Toronto. à Noël, mais pas le reste du Canada. Et, fait que là, c'est sa sortie plus large, le 9 janvier. Plus large, c'est quand même niche, parce qu'au Québec, je pense qu'il y a 6-7 écrans, puis beaucoup Montréal et autour. Là.
Mais c'est un Fox Searchlight, donc déjà là, on est dans une manière plus indépendante.
J'ai vu qu'il est à Québec, je pense qu'il n'est même pas à Sherbrooke, alors que d'habitude, c'est le genre de film que la maison du cinéma, sans offense, ouvre. Mais il y a tellement de films, là, je pense que je vais le redire toutes les semaines, là, je m'en excuse, je me répète, mais il y a tellement de films ces temps-ci que c'est impossible que tous les cinémas jouent tout. Ouais. Il va y avoir des choix, il va y avoir des films qui resteront pas longtemps à l'affiche ou qui vont jouer d'une manière weird une fois par jour, puis t'sais, parce que je pense que aussi tous les distributeurs vont mettre de l'eau dans leur vin puis pour que tout le monde ait un peu de place, mais personne ne peut avoir beaucoup de place. Fait que c'est peut-être aussi ce qui arrive à « Est-ce que ça fonctionne? » titre en version originale avec sous-titre français. Troisième film de Bradley Cooper, comme tu as mentionné, après « A Star is Born » et « Maestro ». Fun fact, c'est le premier que je vois. J'ai pas vu les deux.
Ah, OK.
Sa mère en vedette, Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper lui-même qui donne un beau petit rôle sympathique. Et j'aime aussi beaucoup Ciaran Hinds qui joue le père de Will Arnett. On suit Arnett qui est un père de famille new-yorkais qui est récemment séparé. Le film commence, ils sont déjà, ils vivent à part, ils se séparent les enfants. Puis lui et Laura Dern apprennent à être séparés, puis c'est dans leur premier temps. Tu comprends que ça fait 20-25 ans qu'ils sont ensemble. Le mariage a fini par grincer puis avoir des difficultés, mais c'est pas du monde qui se lançait des assiettes par la tête puis qui ont trompé l'autre, puis etc. Ouais. Ils s'entendent plus, ils se séparent, mais là, il faut qu'ils apprennent à dealer avec ça. Mais ce qui est intéressant dans ce film-là, ce qu'on n'a pas vu ailleurs vraiment, c'est que lui, par un heureux hasard, va s'inscrire à un open mic de Comedy Club, donc aller faire un 5 minutes contre un drink puis l'entrée gratuite. Puis finalement, son improvisation va quand même bien aller. Il va parler de lui-même, de sa situation, de son divorce, ben de sa séparation. Et va prendre goût à tout ça, connecter avec les jeunes qui font ça à temps plein, puis roder. Puis le monde de l'humour est très à la mode, là, entre autres au Québec, avec le Bordel Comedy Club. Il y en a un qui a ouvert à Québec, ça commence à ouvrir partout. Même à Montréal, le Bordel a ouvert une deuxième salle. Ça dit de la place pour en avoir plus, puis tout. Le fait de roder ton numéro 6 fois de suite à plein d'heures dans plein de bars différentes pour l'améliorer, puis tout. Fait qu'il va faire ça sur le site pendant qu'il est seul dans son appart, mais il va pas oser en parler à sa femme, son ex, à ses enfants, à sa famille. C'est comme... Ben, un peu gênant, mais surtout, il ne sait pas trop où il s'en va avec ça. Puis le fait que ça devient un peu sa thérapie de parler de ça. Fait que c'est une comédie dramatique. Je dirais plus un drame comique, mettons. Là, c'est pas, on se tape pas sur les cuisses parce que même son humour qu'il fait est assez cynique puisqu'il parle de sa tristesse intérieure là-dedans, de sa solitude. Fait que, tu sais, dans des bars de New York, justement, sur micro... Bref, très, très, très sympathique. Je vais te laisser en parler un peu aussi. Le synopsis, c'est pas plus compliqué que ça.
Non, tout à fait. Puis porté vraiment par Will Arnett, un comédien que j'adore, moi que j'ai découvert dans une de mes séries cultes Arrested Development.
Ben oui.
Job. Et puis, finalement, je trouve qu'il est, c'est souvent... Il y a un humour quand même assez particulier. Arnett est capable de jouer dans plusieurs registres, mais là, je
trouve
que...
Acteur canadien.
Oui, c'est ça. Mais il a vraiment un beau rôle. Il peut montrer toutes les palettes de sa couleur.
Je pense que c'est son meilleur rôle. Même si vous l'aimez dans Lego Batman ou des affaires comme ça, voit vraiment que c'est un comédien.
Oui. Puis une très belle chimie avec Laura Dern. D'ailleurs, j'ai lu qu'ils sont préparés beaucoup en amont pour créer... Oui, tout à fait.
Ils sont sortis ensemble pour se séparer.
Fait que c'est deux beaux rôles, honnêtement, pour ces comédiens-là. Et ça confirme Bradley Cooper. Moi, j'ai vu ces deux autres films, c'est vraiment un très bon réalisateur, honnêtement.
Ah oui, OK.
Ouais, Star is Born.
Mais il a l'air de, comme c'est un comédien, de bien comprendre ses personnages, puis c'est pas juste... Il réalise pas pour être flashy. Là.
Non, au contraire, justement, il laisse toute la place à ses comédiens. Je pense qu'il réussit à tirer de bonnes performances de tout le monde, bien que dans ses deux premiers films, c'était quand même lui qui était le rôle principal. Là, il est plus effacé, mais quand même un petit rôle secondaire qui est très drôle.
Il est le frère de Will Arnett.
Non, je pense que c'est juste un ami.
Ah, OK. Ouais. Je pensais que c'était son frère. Qui est un wannabe comédien, là, justement, acteur, mais aussi de comme 50 ans, qui est comme... Ah,
qui galère
dans
un peu.
Une série, là. Ouais, c'est un troisième rôle, là.
Puis, ce qui est d'autant plus intéressant dans sa mise en scène, c'est que c'est lui qui est caméraman aussi. Donc, il est cadreur.
Mais c'est beaucoup de caméra à l'épaule et tout.
Oui, puis très près aussi. Ouais. Toutes les parties
stand-up. Il est littéralement sur la scène.
Exactement. Fait qu'on on pénètre vraiment dans cet univers-là. On a l'impression de partager la scène avec Will Arnett. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé mon genre d'humour, mais très fin aussi, l'écriture. Tout est probable, tout se peut.
Ouais, une couple d'événements arrangés avec le gars des vues, mais qui n'ont pas un effet grandiose de cinéma. Là. Plus des heureux hasards. Puis, ce qui est bien là-dedans aussi, c'est que c'est pas, comme quand on parlait un peu de Marty Supreme, qui est comme finalement pas tant un film de ping-pong, ben là aussi, là, c'est pas lui après qui va se retrouver à faire un gala puis qui va devenir un grand humoriste. C'est pas ça le but du film, là. C'est juste comme si quelqu'un se formait un band de cover puis jouait deux, trois fois dans un bar, là, ben... C'est un peu ça qu'il fait, là. Tu sais, il va juste faire des open mic une couple une fois de temps en temps, puis chummer avec cette nouvelle gang d'amis-là, puis ils se mettent à fumer, puis tout. Mais il espère que sa situation se règle, puis il n'est pas très heureux, houillé, finalement. C'est son exutoire, ça.
Et ce qui était le plus surprenant, c'est qu'à la fin, on voit que c'est inspiré de faits réels.
Oui, j'ai vu, puis c'est un joueur de soccer.
Un ex-joueur de soccer, John Bishop, qui est un Anglais. Qui est devenu humoriste à 40 ans, justement. Donc, c'est vraiment cette histoire-là. Par hasard, il s'est rentré parce qu'il ne voulait pas payer. Il séparait. Fait que tout ça, c'est vraiment réel. Étant en instance de séparation, il a commencé à raconter sa vie, ça a pogné. Il a repris avec sa femme parce que la scène, une des scènes du film, quand même, qui vire le narratif de bord a vraiment existé aussi.
Okay, ouais.
Puis, finalement, il est devenu un humoriste vraiment... suivi, là, qui fait sa carrière avec ça. Britannique. Et ce qui est drôle, c'est que Will Arnett a rencontré John Bishop en voyage à Amsterdam par hasard, sur un bateau. Ils se sont mis à jaser. Puis il a tellement trippé son histoire que c'est finalement c'est lui qui, qui a voulu l'adapter.
Le film est écrit à six mains, là, dans le fond.
Ouais.
Bradley Cooper, mais avec Will Arnett puis Mark Chappell, qui est un scénariste.
Ouais. Et dernier petit fun fact, c'était Emily Blunt qui devait jouer le rôle de Laura Dern à l'origine, mais elle a été prise sur le film de Spielberg.
Ah,
donc,
pas plate.
Ouais, ça, c'est pas plate quand même.
Ouais, ben, c'est ça. Quand t'es pris pour un autre bon film, là, comme.
C'est ça,
c'était qui? Je me souviens plus, mais il me semble que Matt Damon, là, il avait raté un bon coup.
C'était Avatar.
Ouais, mais Avatar, c'est parce qu'il était sur une suite de.
Jason Bourne, ouais.
Jason Bourne. Fait que c'est pas si mal dans le sens que c'est son bébé et tout. Mais quand il a fait Great Wall là, of China, là, qui était finalement. Je pense qu'il a fait rater. Ben, tu sais, les grands acteurs, actrices, pas nécessairement de talent, mais populaires, ben, à chaque fois qu'ils disent oui à quelque chose, il faut qu'ils disent non à d'autres choses.
Ben, c'est ça.
Puis qu'après, des fois, je me souviens plus lesquels disaient ça en podcast, là, tu es curieux d'aller voir le film, tu fais comme. Ah ouais, j'aurais dû. Ou d'autres fois, t'es comme, effectivement, ça a l'air. Puis tu sais, toi, tu lis un scénario, là, tu sais pas de quoi ça va avoir l'air.
Là. Des fois, c'est juste un impondérable de timing parce que là, tu devais tourner au printemps. Ouais. Finalement, le film est repoussé à l'automne, mais là, tu avais déjà engagé sur un autre projet avant. Puis, fait que souvent, c'est juste le hasard comme ça.
Ouais, puis j'imagine que quand tu tournes avec Spielberg, c'est ton choix numéro un tout le temps. Là.
Je pense que oui.
Ça va être juste un rendez-vous manqué avec Bradley. Là. Il y aura peut-être une autre occasion.
Fait que restons du côté américain.
Fait que bref, vous aurez compris un film qu'on a tous deux aimé.
Oui,
que
oui,
comme tu m'as dit, même si c'était sorti au cinéma au Québec en 2025, il aurait probablement été dans ton top 10.
Je pense que oui. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Fait que
garde-le en tête pour ton top 10 2026. Parce que, ouais, en tout cas, on est rien.
Ouais. Pour l'instant, il est dedans.
Ouais, après une semaine de sortie, il est dedans.
Ça, on verra si ça bouge.
Techniquement, tout ce qu'on t'a vu aujourd'hui est dans ton top 10 à date.
C'est ça. Fait que restons du côté américain. Tu débutes ou je débute parce que là, on a un split pour ce qui s'en vient.
Vas-y.
OK. Fait qu'on est avec
plus grosse sortie.
Primate de Johannes Roberts.
Johannes, peut-être.
Ou Johannes. Sûrement. Pas trop. C'est un Britannique, en fait.
Ah, OK.
Mais il y a un nom, c'est comme très scandinave.
C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur qui, si on regarde la bande-annonce et les médias et le fait qu'il sorte en janvier, a l'air d'être de la chenoute.
Ouais.
Mais il n'en est pas.
Non.
Soyez surpris. C'est un creature feature qu'on appelle, qui était à l'époque, où on va avoir un animal qui tue tout le monde. Des fois, c'est des lions. Des fois, c'est des crocodiles géants. Cette fois-ci, c'est un petit primate. C'est un chimpanzé. En vacances dans l'archipel d'Hawaï, une collégienne et ses amis sont pourchassés par un chimpanzé domestiqué, mais qui est maintenant atteint de rage. Alors, puis je pense qu'à la maison, c'est plus qu'il est plein de domotique puis d'affaires de même. Est-ce tout robotisé?
Non.
OK.
Non.
Parce qu'il y a des vitres qui slidaient puis tout. Fait qu'ils sont un peu coincés là, puis le singe est rendu méchant puis il veut tuer tout le monde.
Oui, ben en fait, c'est le singe comme de la famille de la protagoniste, parce que leur mère est une linguiste qui étudiait le langage avec les animaux et
tout ça. Oui, puis le père est muet, j'ai oublié son...
Choi Coacher.
Oui, c'est ça, qui était dans le fameux coda.
Oui, c'est ça. Fait que déjà là, c'est intéressant aussi. Et la façon que le personnage est amené, c'est intéressant aussi.
Le personnage
Du père.
Du père.
Oui, c'est ça. Mais ce qui surprend, en fait, c'est qu'on n'est pas dans un teen movie idiot, au contraire. Pas trop dans l'horreur non plus. plus un côté très thriller, des bons moments de tension, mais il y a quand même quelques moments de gore assez surprenants.
Ben, c'est sûr que s'ils sont une poignée de gens, ils peuvent pas tous mourir en dedans de 20 minutes.
Là, exact. Mais au-delà, c'est l'intelligence, honnêtement, de la mise en scène. Robert, c'est surtout connu pour le deuxième Strangers Pray at Night.
Ah, okay.
Et le dernier Resident Evil. Fait qu'il n'y avait pas un grand résumé. Il a fait beaucoup de films.
Il a fait 47 Meters Down.
Ouais, c'est ça. Donc,
qui est aussi un film de monstre. Ouais. Okay.
Il devient donc baigné beaucoup, mais dans des petits films un peu série B d'horreur. Je trouve qu'il y a vraiment une maîtrise dans sa mise en scène. L'atmosphère est vraiment intéressante. Beaucoup de clins d'œil à John Carpenter, que ce soit Halloween, The Fog, entre autres, et surtout par la musique. On est dans la trame sonore synthétisée à la Carpenter, qui ajoute un petit quelque chose de fun, rétro-sympathique. Les personnages sont intéressants, les comédiennes vraiment efficaces aussi. Fait que, honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir Primate. Comme tu as dit, j'étais sceptique en voyant la bande-annonce. Quand j'ai vu les premières critiques, quand même très élogieuses, fait que ça m'a fait changer mon fusil d'épaule. J'étais prêt à lui donner une chance. Puis honnêtement, c'est un très bon divertissement.
Puis là, tu sais, il y a eu des projections spéciales. On est vendredi, nous, quand on enregistre, fait qu'il y a eu des shows le jeudi soir dans certains cinémas. Fait que sur Letterboxd, les gens que... avec qui je connecte.
Ouais.
On commence à rater, puis c'est ça, tout le monde est comme, pas du 5 étoiles, mais tu sais, ils sont comme, hey, c'est vraiment bon.
Ouais, ouais,
c'est full efficace, ça rend hommage à ce genre de cinéma, puis c'est plus une petite pépite qu'une petite boulette.
Et je dirais la clé aussi, c'est que le singe n'est pas fait par, n'est pas fait numériquement, n'est pas fait par ordinateur, donc on a vraiment
c'est un
créé
costume,
en deux parties. Fait que oui, il y a vraiment une costume ultra détaillée, où c'est un comédien spécialiste de mouvement là, qui va l'habiter, mais aussi... un robot, évidemment, là, fait que, mais très bien
beaucoup
fait.
D'effets pratiques, en fait, c'est ça?
Entièrement pratique, fait que ça, c'était vraiment voulu, justement. Et même aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire, ça paraît, il y a une petite coche de
on
plus,
le
on le sent, on le voit aussi dans la peau et tout ça. Donc, fait bravo pour cet élément-là.
Ben, je vais essayer d'aller le voir en fin de semaine. Mm.
Puis en plus,
de fin de soirée, je me coucherai pas tard.
La maison est vraiment très haute. Puis là, je me dis, hey, crime, c'est le fun. Puis tu sais, une belle maison en Hawaii comme ça, c'est comment qu'on fait pour trouver ça? Puis finalement, ben, ça a été fait en décor, en studio.
Ah, OK. C'est vraiment l'âge d'or du cinéma, dans le sens des fausses maisons en studio, mais des effets pratiques, des trucs comme ça, c'est super.
Alors, voilà. Fait que,
puis en plus, clin d'œil aux années 80, tu te fais dorloter comme
un
enfant.
Oui, voilà. Fait que j'ai bien aimé Primate.
Super.
Sinon, toi, tu as vu Father, Mother, Sister, Brother du cinéaste culte Jim Jarmusch.
Exact.
Encore là, moi, je dois avouer que j'ai vu aucun de ses films.
J'en ai vu quelques-uns, puis pas les plus populaires.
Peut-être
pas les plus
récents,
connus,
peut-être.
Ouais. Ben, même pas. Là. J'ai vu des plus nichés, là. Père, mère, sœur, frère au Québec, qui est aussi en anglais avec sous-titres français. C'est un film en trois volets. C'est un film qui traite des relations de famille, mais surtout du non-dit, de tout ce que chacun cache de l'autre, même si on a l'air ouvert puis aimant l'un envers l'autre. Ben ça cache pas un amour pareil, mais tout le monde a un peu son jardin secret. Mais c'est pas un film de grand mystère puis de chicane, c'est plus un film de non-dit puis un peu de malaise. C'est une comédie. On a des bons acteurs connus, notamment Adam Driver, Kate Blanchett, Charlotte Rampling, Tom Waits, Vicky Creeps. Dans la première partie, qui est la partie père, c'est un frère et une sœur qui vont rendre visite à leur père excentrique et reclus, joué par Tom Waits, qui ont de la misère à connecter, puis boivent de l'eau, puis se posent des questions que absurdes, genre, si on veut, dans leur discussion. Ils n'ont un peu rien à se dire, puis ils vont se voir une fois de temps en temps pour, tu sais, un quasiment dire « t'es-tu en vie, puis tu salubes chez vous? » Et finalement, le père a quasiment une vie secrète. Dans le deuxième, mère, c'est Charlotte Rampling qui reçoit ses deux filles jouées, qui sont quand même très différentes par Blanchett et Cripps, qui se retrouvent donc face à leur mère écrivaine qui est très distante et exigeante. Et finalement, dans la troisième, deux comédiens moins connus, des jumeaux-jumelles, qui doivent composer avec les séquelles émotionnelles liées au décès récent de leurs parents. Fait que les films, les histoires sont pas connectées entre eux, c'est pas tout ça une grande famille, plus par des clins d'œil, des discussions autour de boire de l'eau, de faire des chins, des trucs comme ça. Là. Ça a remporté le Lion d'Or à Venise en septembre.
Contre toute attente, je sais que ça
avait
causé la surprise.
Exact, c'était pas le favori, c'est lui qui a sorti. Tu sais, Jarmusch garde sa signature justement, beaucoup de non-dits, de rire quand c'est pas drôle, si on veut. Une forme de malaise. Il est très bon pour diriger ses comédiens, leur donner quand même des... de leur donner des phrases qui se peuvent, un langage qui est crédible. Fait que, mais c'est pas une réalisation tape à l'œil. À l'inverse, tu t'en vas chez du monde, puis ils prennent le thé, puis ils cassent la croûte. Fait que c'est pas excitant à ce niveau-là. Fait que c'est ça, très, très, très sympathique, très appréciable. Je pense qu'on vise... c'est un peu élitiste, mais les amateurs de cinéma, de cinéma de récompense, de c'est peut-être le cinéma différent, alternatif. Fait qu'ils jouent dans quelques salles comme ça. C'est une distribution de Mubi, donc il va être sur leur plateforme dans quelques semaines, mais ils profitent quand même d'un temps au cinéma. À Montréal, il était sorti à Noël, le 25 décembre, entre autres, je pense au cinéma du Parc. Puis là, ben, il est plus largement le 9 janvier. Fait que, écoute, c'est ça, je suis pas un grand connaisseur de Jarmusch. Moi, j'ai vu Café et Cigarette, qui est aussi une vitrine comme ça, une vignette de plein de monde qui fume des tops puis ils boivent du café. Puis à l'époque, j'avais vu parce qu'il y avait Jack White et Meg White dans le film des White Stripes. Et j'ai vu aussi Les Limites du Contrôle, qui est vraiment pas son plus connu, là, sur une espèce de tueur à gage qui parle jamais puis qui boit des espressos, là. Je pense en Italie, justement. Puis sinon, fait que, tu sais, Broken Flowers, Patterson avec Adam Driver, un de ses plus récents qui était très populaire aussi. J'ai pas vu ça. Puis sinon, je pense son plus récent, ça se peut-tu que c'était The Dead Don't Die? Puis qui avait vraiment pas connu le succès d'estime, là. Lui, il a pas été apprécié. Mais je pense qu'ici, les amateurs vont retrouver un Jim Jarmusch qui est peut-être un peu comme Wes Anderson récemment, tu sais, essaye plus de gagner des fans, là, si on veut, là. Je pense pas que c'est son but, mais tu sais, fait le cinéma qu'il aime faire à la façon qu'il aime faire, puis que ceux qui m'aiment me suivent, puis les autres, ben, passez votre tour, tu sais. Mais c'est pas... ça s'écoute très bien, là. C'est pas difficile d'approche, là.
Donc, voilà. Un film à acteur.
Ouais, exactement, c'est ça.
Allons-y avec la grosse sortie française de la semaine, Chien 51 de Cédric Jiménez.
Ouais, un gros réalisateur en France, Cédric Jiménez, qui a fait des bons films, dont Novembre.
Moi, j'avais beaucoup apprécié Novembre.
Beaucoup de films de police, puis d'enquête, puis d'action et de thriller, si on veut, là. Et il est toujours flanqué des comédiens très populaires. Là, il n'y a pas Jean Dujardin cette fois, mais il y a encore Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, qui est évidemment dans un film sur deux, mais aussi Louis Garrel, Romain Duris, même dans des rôles secondaires, Valéria Bruni-Tedeschi, qui est un nom peut-être moins connu, mais un visage qu'on reconnaît, était dans l'excellent L'Attachement en janvier dernier, justement. C'est un sci-fi d'action, d'enquête de police, un peu comme on dit qu'il fait, mais... En science-fiction, ça, c'est rarement vu quand même en France. C'est un genre qu'on laisse plus aux Américains d'habitude. Exact. Dans un futur proche, Paris est divisé en trois zones. Donc, zone 1, 2, 3, il me semble. Plutôt ABC, 1, 2, 3. Puis, ça sépare les classes sociales. Fait que la zone 3, c'est quand même la plèbe. Puis, Lelouch, lui, il est policier dans cette zone-là, Zem. Mais Salia, jouée par Exarchopoulos, elle est une policière de la zone 2. Sauf qu'il y a un crime commis en zone 3, en fait. C'est l'inventeur de l'intelligence artificielle, Alma, qui a révolutionné le travail de la police. Mais il est retrouvé mort. Donc, cette policière de la zone 2 va devoir travailler avec celui de la zone 3. Le odd couple, là, les policiers qui s'entendent pas, le vétéran désabusé puis la jeune zélée, dans ce complot pour essayer de comprendre qui a assassiné, puis qu'est-ce qui se passe, puis les luttes de classe, puis qu'est-ce qui est arrivé à notre bonne vieille France. Mais en fait, tous ces gens qui avant cohabitaient maintenant sont en grand clash social.
Film à très gros budget, on parle de 42 millions d'euros. Ouais, donc c'était le deuxième plus élevé de 2025 après le Dracula de Besson qui était à 45 millions.
Ouais, sauf que Chien 51 a eu un bien meilleur succès que le Dracula de Besson. Quand même un 1,3 million d'entrées en France. Je pense que c'est le plus gros succès français de l'année.
Ouais, fait que moi, c'est un film que j'ai découvert à Toronto, Festival de films de Toronto, parce que je devais m'entretenir avec une partie de l'équipe. Finalement, ils ont choqué, ils se sont pas présentés, je pense,
à Toronto. C'est pas juste toi qui t'en déchire pour quelqu'un de plus connu.
Non,
là,
ben écoute, le Festival de Venise a lieu à peu près dans les mêmes dates, puis ils étaient là aussi. Puis j'ai l'impression qu'ils ont dû avoir... plus de fun à Venise ou des possibilités de fait que...
Des fois, c'est peut-être aussi parce que, sans offense, l'acquisition canadienne était déjà faite, puis tout. Puis peut-être que c'était comme, Venise, on va avoir peut-être le reste du marché européen.
Exact. Fait que moi, ce film, quand même, j'ai bien apprécié. L'ouverture est vraiment intéressante, honnêtement. La poursuite et tout ça, Jiménez filme vraiment de manière spectaculaire les poursuites, surtout dans Paris, dans les petites villes, mais en même temps avec ce côté-là futuriste.
Des drones qui surveillent tout.
Très intéressant. Je pense qu'il manque peut-être un petit quelque chose. Je pense que le film est peut-être pas complètement à la hauteur de la prémisse. Je pense que ça aurait
été... Et du casting.
Ouais, ou en plus, parce qu'il y a quand même un casting tout étoile. Fait que la conclusion est peut-être un petit peu décevante là, pour ma part. Mais si vous aimez le genre, ça respecte tous les codes. C'est quand même bien fait. Petit malaise aussi, je pense, dans l'histoire d'amour entre Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos.
Ça, c'est moi, c'est mon bémol là-dessus. Là. J'ai eu du fun à écouter le film et tout, mais c'était comme... Ah, c'était pas nécessaire. Ça, ouais. Il aurait pu juste être... Surtout qu'ils ont comme 15-20 ans de différence. Fait que, puis on dirait qu'à un moment donné, ils se sont dit « Ah ouais, il faudrait qu'ils couchent ensemble. » Je sais pas. Là.
Ouais. Mais sinon, ouais, esthétiquement, c'est vraiment super intéressant comme film. C'est bien réalisé.
Ouais, ça n'a pas l'air cheap. C'est ça souvent quand, comme je dis, les Américains en font beaucoup. Puis là, dès que c'est d'autres pays qui font de la sci-fi, on est comme « Ah, ça va être boiteux. » Mais c'est comme « Non, ils font... » avec les moyens qu'ils ont pour que ça ait l'air à la hauteur là, des attentes.
Peut-être une petite vibe Minority Report. Là, je pense qu'on pourrait être qualifié dans ce style-là pour donner une image. À noter quand même, c'est le quatrième film avec Adèle et Gilles qui tournent ensemble.
Oui, dont une coupe avec Jiménez.
Oui, tout à fait. Donc, comment
il s'appelait celui que...
C'était Bac Nord.
Ouais, c'est ça.
Puis ils ont joué aussi dans Fumer, Fait tousser. Et je verrai toujours vos visages que je n'ai pas vus. Puis évidemment, Gilles Lelouch avait pris Adèle pour son film L'amour ouf. Donc, une filiation là. Et c'est Xavier Dolan qui devait jouer le personnage de Romain Duris.
Ah ouais?
Ouais.
Mais c'est drôle, il aurait été jeune pas mal pour être l'espèce. Ouais. C'est pas le boss, justement?
Ben, c'est le créateur de l'IA, là. Fait que tu sais, il fait. Romain Duris, c'est-tu le... Non, c'est pas le créateur, non, t'as raison.
C'est le boss de la police, le commissaire ou quelque chose de même.
Ben...
Mais ça aurait pu, là, ça parce que ça pu. Arrive dans la vie, justement, un peu plus jeune.
Ouais, fait que voilà.
Non, parce que le créateur de l'IA, il est pas très connu, parce qu'il est
raison,
comme mort
c'est
dès
ça.
Le début.
Ouais, c'est moi qui a fait le...
Puis il y a Louis Garrel, qui est l'espèce de...
Révolutionnaire. Ouais,
c'est ça, exact.
Alors voilà pour Chien 51. Restons dans le film français. Oui. Un petit split pour nous deux. J'y vais ou tu y vais?
Ah, vas-y, avec la petite dernière. Je pense que c'est un plus grand rayonnement.
Afsia Herzi, parce qu'il faut noter que la petite dernière, c'est la comédienne Nadia Meliti qui avait remporté encore là, contre toute attente le grand prix d'actrice.
Prix d'interprétation féminine à Cannes. Et le film a gagné la Queer Palm aussi.
Oui.
Donc,
de quoi parle-t-il?
C'est un film queer. La petite dernière, ben, grosso modo, c'est un coming out impossible. Fatima, qui est une jeune musulmane pratiquante, vit dans une banlieue française avec ses parents, et dans une famille très aimante avec ses deux frères aînés. Mais à l'approche du bac et de son entrée à l'université, elle prend conscience de son attirance pour les femmes. Fait que partagée entre sa foi et son éveil sexuel, elle va s'inscrire en secret sur des applications de rencontres.
Mm-hmm.
Fait que cette... un peu inévitable cassure familiale quand tu sens que tu vas choquer tout le monde, mais est-ce que tu fais semblant ou tu veux devenir toi-même, être en paix avec toi-même? J'ai pas vu le film et j'aimerais beaucoup le voir parce que je trouve que je pense qu'il y a des très bons films de l'année. J'ai vu des critiques commencer à sortir, sinoche.com, 4 étoiles, des trucs comme ça. Fait que ça a l'air d'un des très bons films de l'hiver.
Oui, très beau film aussi parce qu'on est beaucoup dans la bienveillance, dans la luminosité. C'est pas lourd du tout. Au contraire.
C'est comme un coming of age très bien exécuté dans le sens qu'on réinvente pas la roue, mais on l'a fait. Foutrement bien tourné.
Oui, ben, et surtout, on la présente dans un univers qu'on connaît moins, qui est quand même provocateur comme film. C'est l'adaptation d'un roman aussi
arabique.
Oui, c'est ça. Afsia Herzi, qui est aussi comédienne, je pense qu'elle est on pourrait dire, qui aime brasser les choses, qui a une grande gueule. On l'avait vu dans La prisonnière de Bordeaux. Je pense qu'elle avait un sujet intéressant qu'elle voulait aborder. Mais surtout, la complicité entre Nadia et, parce qu'elle va tomber en amour avec une Asiatique française, Jimin Park, qui forment, on croit leur couple, on croit leur histoire d'amour, sont beaux à voir. Et ce qui est plus spectaculaire, c'est que Nadia Meliti, c'est une non-professionnelle, a été découverte en casting sauvage par l'agent de casting alors qu'elle se tenait avec des amis. Elle est approchée. T'as le profil, t'as le look, t'aimerais-tu ça jouer dans un film? Puis elle a juste dit, ben, moi, je suis curieuse dans la vie, mais j'ai jamais fait de théâtre. C'est une sportive, elle joue au soccer. Puis d'ailleurs, ils ont incorporé ça dans le film, justement, sachant qu'elle était sportive. Puis elle s'est présentée aux auditions, elle a eu des callbacks, puis finalement, c'est elle qui a été choisie. Fait que c'est quand même...
C'est fou. Puis elle a gagné un prix à Cannes.
C'est hallucinant.
Ben, c'est un peu comme l'histoire de Suleiman.
Ouais, ben, tout à fait.
Gagné au César et tout, puis comme, ben, je sais pas si je vais faire d'autres films, là. C'est pas nécessairement ma vocation. Là.
Donc, très beau film, honnêtement, si vous aimez ce genre-là. Évidemment, La Petite Dernière, ouais, une belle petite perle à voir. Toi, t'es allé voir La Femme la plus riche au monde de Thierry Kilifa.
Patrick, j'ai tellement oublié de noter des films. Là.
Oui, prends deux secondes, puis va voir.
Les... Quand j'ai fait mes notes, là, je me suis dit, il me semble que j'oublie quelque chose. C'est ça. La femme la plus riche du monde de, effectivement, Thierry Kilifa. Un scénario de plein de personnes, dont Thierry Kilifa. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée les années 90. On se dit Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foy, c'est une belle comédie. C'est plus un drame qui a des côtés drôles, mais on est vraiment plus dans le drame, sans être le mélodrame, évidemment. Isabelle Huppert joue la femme la plus riche du monde parce qu'elle est à la tête d'un empire de cosmétiques qui a hérité ça de sa famille, donc ils ont des avoirs à n'en plus finir. Elle a l'âge qu'elle a, là, dans la soixante-dizaine. Je pense que dans l'histoire vraie qui a inspiré, c'est plus une dame de 80 ans, mais Isabelle Huppert a début 70, sauf erreur. Fait qu'elle a tout, sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Puis il y a un photographe assez excentrique, homosexuel, joué par Laurent Lafitte, qui va... la prendre en photo, puis comme rentrer dans son cercle fermé, puis devenir son meilleur ami, son confident. Puis lui aussi, il a des ambitions, puis il est assez insolent, puis très extraverti. Puis tranquillement, on va sentir qu'il va comme gratter son argent, puis « Hey, moi, j'ai besoin de financer mon expo photo, personne ne veut le faire, puis tout, tu sais. » C'est quand même un beau parleur, là.
Mm-hmm.
Pas si loin de Marty Supreme, finalement.
Ouais.
Plus coloré, même. Fait que tu sais, puis il y a le majordome, toute la famille autour, Marina Foïs, qui est la fille de son époux, donc c'est pas la fille du personnage de Huppert, mais comme sa belle-fille. Elle aussi surveille autour, qui est moins impliquée dans la compagnie, qui est une musicienne, mais tu sais, qu'on comprend qu'elle vit plus parce qu'elle a de l'argent que réellement parce qu'elle a une carrière. T'sais. Fait que ça va créer beaucoup de secrets de famille, de jalousie, puis. Avec ça, on voit aussi des plans de... Comme si quand ils sont en interrogatoire avec la police, parce qu'il va se mettre à avoir des dossiers légaux plus tard par rapport à tout ça.
Fait que mais il va se faire poursuivre, en fait. Hein.
C'est ça ce qu'on comprend plus tard au fil du récit. Donc, il est librement inspiré de cette affaire que nous, on n'a pas connue ici. Là, une affaire comme un peu sociale de faits divers des années 90, c'est ça, de France. Là. Fait que tu sais, j'ai pas envie de tout expliquer c'est quoi l'histoire, parce que ça va enlever un peu de surprise à ce qui se passe. C'est pas une histoire de meurtre ou quoi que ce soit, mais vraiment plus de prendre l'argent. C'est ça exactement, petit à petit. Ce qui est un peu coquin, parce qu'on vient de le parler, c'est pas si loin que ça de La Prisonnière de Bordeaux, d'une certaine façon, dans cette histoire de gens riches qui se font un peu manipuler, avec Isabelle Huppert, justement. Mais c'est aussi un des plus grands succès français. C'est sorti juste avant les fêtes, ici, là, à 2 janvier à Montréal, le 9 janvier, pas mal partout. Là, vraiment, là, c'est une sortie large pour cette semaine. On y va pour les comédiens. Ils ont du fun, une chimie incroyable. C'est des comédiens très forts, chevronnés. Même Raphaël Personnage, qui joue le majordome, est très intéressant, qui lui aussi a un lien très important là, dans la vraie histoire et tout. Fait que j'ai beaucoup apprécié ce visionnement-là. Je suis pas nécessairement le public cible, mais j'ai eu du bon temps. Ça dure 2h02. C'est peut-être un petit peu long. J'étais assez tranchant, moi, sur les durées de film quand même. Peut-être pour ça que j'ai envie de voir Primate à 89 minutes. mais c'est quand même... écoutez, même si j'enlèverais un 6 minutes, tu sais, c'est personnel, là. Je recommande chaudement ce film. Je pense que c'est une des bonnes vues de janvier. Mais qui, lui aussi, pourrait être victime de ce trop plein de films et de films français le 16 janvier. Il y en a plein, là, on les présentera tantôt, là, ce qu'on couvrira la semaine prochaine. Fait que les films qui vont se démarquer vont pouvoir garder de l'affiche. Ceux qui boitent un peu vont se faire tasser rapidement. Je sais pas où va se placer La femme la plus riche du monde. Je pense qu'il va quand même connaître, avec un casting de même, un certain succès.
Ça a eu peur. Il y a quand même des actrices chouchous au Québec.
C'est ça, mais tu sais, prévoyez pas aller le voir le 8 février. Là. Si vous nous écoutez, là, les Snowbirds qui sont loin, je ne sais pas si ça va être là en mars quand vous allez revenir. Là, voilà.
T'as fait le tour? Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Autres sorties, quand même, qui sont aussi plus pointues, je pense. La Chorale, un film britannique de Nicolas Hytner, Lui qui sort aussi 9 janvier à Montréal, plus tard le 16, je ne sais pas sur combien d'écrans va ouvrir, je ne sais pas si on aura le temps et tout, fait que je vais en parler tout de suite puisque je l'ai vu. On est en 1916 au Yorkshire. C'est ça? Yorkshire? Ouais, ouais. Comme le chien. On recrute un chef de chœur joué par le talentueux Ralph Fiennes. Ruffinus.
On va lui demander la prochaine fois.
Qui est controversé dans ce village parce que, dans le fond, le précédent chef de la chorale vient de quitter pour s'enrôler. On est en 1916, je le rappelle. Et lui, c'est parce qu'il affectionne quand même la culture allemande. Prend pas pour les nazis, mais toutes les œuvres, surtout la musique. Fait qu'il est controversé dans le village, puis il va diriger cette chorale-là qui est un peu boiteuse parce que plein de monde sont partis au front, reviennent ou ne reviennent pas, ou reviennent amputés. Fait que c'est se faire accepter dans le village, rebâtir. C'est comme un film... C'est comme un drame social autour de la musique. Je pense ici qu'on vise les amateurs, un public plus âgé, plus toi qui adores les films de ben là, c'est la Première Guerre mondiale, mais de guerre, il n'y a aucune scène de guerre. Là. C'est vraiment le côté qu'est-ce que le village vit, puis eux, ils se font pas bombarder ou quoi que ce soit. Là. C'est juste que les jeunes, dès qu'ils ont 18 ans, partent, puis on les revoit pas tout le temps. Fait que ceux qui restent, un peu de concubinage, des trucs comme ça. Il y a évidemment une performance musicale à la fin qui va égayer nos sens, mais c'est pas un film qui est chargé de musique tant que ça, même si on en discute beaucoup. Là, c'est vraiment plus le commérage puis les difficultés dans le village. Il y a beaucoup de personnages quand même. Fiennes est super fort, fait qu'il vole la vedette parce que c'est un comédien implacable. Voilà, fait que c'est pas une grosse sortie, mais ceux qui sont intéressés seront servis. Mais
la bande annonce m'avait séduite quand même. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, sympathique. Là,
ben écoute, je te classe dans la case vieillissante qui devient intéressée par ces films. Mais je suis quand même aussi. Des fois, quand j'aime pas, je suis assez sauvage. Mais pour le reste, je pense que j'ai quand même une certaine ouverture, là, même si des fois je pestifère hors micro à la sortie de nos films. C'est plus que des fois, c'est surtout du côté américain que des fois je trouve pas la justification de faire certains films. C'est ça qui m'agace. Mais d'habitude, je pars avec une certaine ouverture d'esprit. Puis c'est ce qui est arrivé avec La Chorale. C'est pas un film mémorable, mais c'est un film très, très agréable à écouter. Il y a aussi, que je n'ai pas vu, la comédie française Chasse gardée 2. Qui prend l'affiche dans certains cinémas le 9 janvier.
Un autre grand succès en France.
Mais... Oui, exact. Il a joué pendant le temps des fêtes. Fait que c'est la suite du premier Chasse gardée du monde qui s'était établi en campagne et que là, une belle maison, une affaire trop belle. Finalement, le bois leur appartient, mais tout le monde a le droit d'y aller. Droit commun. Fait que là, il y avait de la chasse. Fait que là, il y avait une guerre de gags là-dessus. Puis là, dans la sœur, qu'ils sont bien entendus avec tout le monde puis qu'il y a des permissions, il arrive des nouveaux voisins puis ils sont comme avoir des amis. Puis eux, c'est pire. Ils font, comment on appelle ça, de la chasse à la cour. Chasse à cour.
Ah, ouais.
Fait qu'avec des chevaux, des clairons, des beagles. Fait que là, ça redevient un nouveau joyeux bordel puis probablement un peu à la classique de la suite et de la surenchère. Leurs anciens ennemis vont devenir leurs alliés parce que les nouveaux ennemis sont plus les ennemis de tout le monde. On pense récemment aux États-Unis, Neighbors 2.
Ça, c'est avec Thierry Lhermitte, hein, si je me trompe.
Ouais, mais il est en rôle secondaire parce que lui, il joue le père de Elle. Fait que lui, il vit pas au village, mais il vient, puis etc. Didier Bourdon, plutôt, le maire du village. Fait que ça joue dans une coupe de salles. Fait que, comme on dit, même principe, on pourra pas traiter de 60 films à chaque semaine. Là. Fait qu'on va parler de ceux qu'on a vus, ceux qu'on a le temps de voir, ceux qui semblent jouer dans... quand même quitter Montréal, jouer dans, disons, plus que 3-4 écrans. Là, je le sais qu'il y a d'autres sorties limitées dans certains cinémas puis dans des programmations parallèles, mais là, à un moment donné,
c'est
trop comme passé. La semaine prochaine, 16 janvier, le trio français, les drames L'étranger de François Ozon, Nino qui met en vedette Théodore Pellerin et Les enfants des autres avec Camille Cotin et Monia Chokri. Fait qu'on couvrira ces trois titres-là. Il y a aussi on enclenche la trilogie 28 Years Later avec la suite de Bone Temple, avec Ralph Fiennes, entre autres. De Nia DaCosta, cette fois, ce n'est plus Danny Boyle qui est aux commandes, même si c'est encore Alex Garland qui a tout écrit ça. Et plein d'autres films qu'on aura peut-être ou pas le temps de voir. Avais-tu d'autres choses à ajouter?
Non, c'est bon.
J'enchaîne. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Si sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous vivez une séparation, c'est peut-être le moment d'aller chercher en vous votre inner Mike Ward. Ward ou Mariana Mazza.